France Musique. Musique et moi.
Jérôme Bell.
Priscille Lafitte. France Musique.
Conférence sur rien. Je suis ici et il n'y a rien à dire. Si parmi vous, il y en a qui veulent arriver quelque part, qu'ils partent à tout moment. Ce dont nous avons besoin, c'est du silence. Mais ce dont le silence a besoin, c'est que je continue de parler. Donner à une pensée une poussée, elle tombera facilement. Mais le pousseur et le poussé produisent ce divertissement qu'on appelle une discussion. En aurons-nous une plus tard? Ou bien, nous pourrions décider simplement de ne pas avoir de discussion, comme vous voudrez. Mais maintenant, il y a des silences. Et les mots font, aident à faire les silences.
Difficile de diffuser la totalité de cette œuvre à la radio, surtout sans prévenir. Mais il fallait bien entendre quelques secondes de silence de l'œuvre de John Cage, 4 minutes 33, pour souligner le texte du compositeur que vous nous avez lu, Jérôme Bell. Merci pour ces mots et bienvenue dans Musique et moi.
Ah ben, avec plaisir, surtout si c'est pour lire du John Cage.
C'est un texte fondateur pour un parfumeur comme vous?
Ah oui, oui, John Cage, qui est ce compositeur, mais aussi artiste plasticien, philosophe, mycologue, que j'ai rencontré moi parce qu'il était le compagnon et le collaborateur de Merce Cunningham, le chorégraphe américain. Et ce personnage, cet artiste m'a ouvert un champ de possibles toujours actif en ce moment, quoi, alors que j'ai rencontré il y a maintenant 30 ans. Et si vous voulez, la pièce donc que j'ai lue, qui s'appelle Conférence sur rien,
ou Lecture on Nothing.
Lecture on Nothing, absolument, est une conférence, mais composée rythmiquement, et qui va essayer d'atteindre le rien. Et cela par une répétition de pratiquement, mais à peine, avec tout petit changement, qui va durer une vingtaine de minutes, où je vais dire pratiquement la même chose. Et grâce à ce procédé, les spectateurs rentrent dans comme un mantra, comme quelque chose qui se répète et donc qui n'avance pas, et qui il espère atteindre le rien. Et l'œuvre limite même de l'histoire de la musique, qui est 4 minutes 33, puisque ça dure 4 minutes 33, comme son nom l'indique. Et en fait, le pianiste, c'est une œuvre pour piano, mais aussi pour orchestre et flûte, n'importe quel instrument. La première, je crois, dans la fin des années 50, ou peut-être début des années 60, le pianiste arrive et ferme le clavier. Et il ne se passe rien. Mais c'est pas vrai qu'il ne se passe rien, parce que, évidemment, le silence n'existe pas, puisque dans la salle, il y a 100 personnes, je sais pas quoi, qui vont, en l'occurrence lors de la première à Woodstock, hurler beaucoup, vont dire qu'est-ce que c'est que ce scandale, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, l'idée de John Cage, c'est qu'il n'y a pas de silence. Il y a toujours, et c'est ça qui est magnifique, il y a toujours des gens qui écoutent. Les gens qui écoutent, c'est du bruit et c'est quelque chose dont qu'on peut percevoir.
Et là, on entendait d'ailleurs une performance donnée par l'ensemble de Kazuo et Sawai à Brême en 1993. On peut percevoir si vraiment on est très attentif des
tout. Voilà, bon, c'est quand même une pièce difficilement écoutable à la radio. C'est plutôt ce que souligne John Cage, c'est la question du vivant et d'avoir des spectateurs ensemble, dans une salle qui vont finalement faire la musique, performer l'œuvre.
Vous aussi, Jérôme Bell, vous sculptez l'espace avec la pensée en quelque sorte, un peu comme John Cage dans cette conférence et dans ses œuvres. Vous faites parler les creux, les vides, l'inhabituel. D'autres fois, ce sont les mots que vous habitez pour mieux en souligner parfois le sens oublié, l'absurde. Parfois, vous prenez les mots au pied de la lettre. On vous appelle un chorégraphe de la non-danse. Je ne sais pas si vous revendiquez cette appellation.
Non, justement, non à la non-danse. non, ça c'est une journaliste du Monde qui avait décidé qu'il y avait un courant qui s'appelait comme ça. Et non, moi je cherche d'autres manières de danser, mais c'est pas
quelque part
dans la négation.
Entre le théâtre, la performance,
oui,
la danse.
Vraiment dans une attitude de l'expérimentation, comme Cage et d'autres artistes, un peu ce qu'on appelle aussi sous le nom d'avant-garde, qui prennent des risques, quitte à se planter.
Vous présentez en ce moment au Festival d'automne à Paris deux créations, un récit autobiographique de la danseuse et chorégraphe chinoise Xiao Kei, où l'on voit son histoire personnelle s'imbriquer dans la grande histoire de la Chine contemporaine. Vous présentez également une pièce qui porte votre nom, Jérôme Bell, pièce que vous qualifiez d'autobiocoréographique, dans laquelle vous vous soumettez à votre propre exercice de récit. Vous livrez un regard forcément subjectif sur votre travail. Alors voyons ce matin comment vous abordez la musique, par quel biais, sous quelle couture, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette tradition qu'est la musique classique, ce qu'elle porte comme convention, comme message, comme émotion aussi. Nous allons convoquer ce matin Oum Kalsoum et Mozart, Alban Berg et Handel. Et pour commencer, le plus grand des penseurs en musique, peut-être, Jean-Sébastien Bach. Christophe Eschenbach joue ce menuet pour piano en ré mineur que l'on attribue à Jean-Sébastien Bach. Est-ce que vous connaissez encore chaque note de ce menuet?
Oui. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté. Il est très rarement enregistré, parce que je pense que c'est une pièce trop facile. C'est une pièce pour les enfants, pour l'apprentissage. Et donc, c'est une petite histoire. Quand j'avais... vers l'âge de 8-9 ans, je vivais à Téhéran. Et des amis de mes parents avaient trois enfants qui étaient musiciens. Et j'avais une de ces enfants jouait du piano. Et c'était mon amie. Et elle jouait ce morceau. Et j'aimais beaucoup ce morceau. Comme ça. Et je lui disais toujours, joue-moi le dernier menuet. Et puis, mon père a été nommé au Maroc, on est parti, cette famille est allée ailleurs, je pense. Et quelques années après, je devais avoir une douzaine d'années, j'ai voulu apprendre le piano. Et j'ai commencé à prendre des cours, on a acheté un piano, et au bout d'un an, deux ans, j'ai dit que je voulais plus faire de piano. Ah, bon, attends, un peu, bon, ok, d'accord, encore une lubie. Et encore quelques années après, j'ai retrouvé ses amis, cette fois-ci à Paris, ses amis de Téhéran. Et il y avait un piano dans l'appartement. Et j'ai dit, ah mais tu te rappelles quand tu me jouais ce morceau-là ? Et elle me fait, mais oui. Et elle le joue comme ça. Et c'est à ce moment-là, précisément, que je me rends compte que quand j'ai décidé d'arrêter de jouer du piano, je savais jouer ce morceau-là. C'est-à-dire que pour moi, le désir de piano, c'était ça. Après, il n'y avait aucun intérêt. C'était là. Et ça a été assez merveilleux. Heureusement que je n'ai pas voulu jouer, je ne sais pas quelle œuvre très difficile qui m'aurait fait travailler beaucoup plus longtemps. Non, j'avais vraiment aucun don pour la musique. Et voilà, et j'aime cette histoire de voir comment... Enfin, le pouvoir de l'art, quoi. Comment, même enfant, même sans rien comprendre, comment il peut aimanter le désir et me pousser à... Bien, évidemment, tout ça était absolument inconscient, quoi. Pas la moindre idée de ce que c'était. Et voilà.
Vous avez un petit peu planté le décor. Vous dites que vous avez grandi à Téhéran, puis vous êtes parti au Maroc. Mmh. Vous souhaitez qu'on écoute Oum Kalsoum, qui forcément vous a accompagné à la radio durant l'enfance, si je comprends bien.
Ouais. Tout à fait. Oum Kalsoum, Fairouz, plein de grandes chanteuses de la musique arabo-andalouse. Donc, enfin, moi, j'ai connu Oum Kalsoum à cause de cette vie au Moyen-Orient. Et comme la télé à l'époque était moitié en français, moitié en arabe, des fois j'attendais à la télé les émissions françaises et souvent il y avait un concert d'Oum Kalsoum avant et donc ça retardait énormément l'horaire de mon programme et donc j'ai dû écouter des heures d'Oum Kalsoum et qui à l'époque enfant mais évidemment m'énervait beaucoup et plus tard encore quand j'entends Oum Kalsoum j'ai le sentiment du familier. Je me sens bien quand j'écoute Oum Kalsoum. C'est comme la ritournelle dont parle le philosophe Gilles Deleuze. La ritournelle qu'on chante à l'enfant pour le rassurer. On lui chante la même chanson pour qu'il revienne dans un endroit familier et se calme. Thank you.
Omri, tu es ma vie, en français. On a entendu la longue introduction à la guitare électrique restée dans les annales de la musique arabe. C'est un objet de culte même, cette collaboration entre Mohamed Abdelwahab et Oum Kalsoum en 1964. Et on retrouve, Jérôme Bell, un peu l'esprit de la conférence sur rien de John Cage. C'est l'art de l'attente, c'est le travail avec le public.
Et c'est-à-dire que c'est un rapport au temps complètement différent que, disons, celui occidental. Et effectivement, ils improvisent, l'orchestre improvise avec elle, donc ils s'attendent les uns les autres pour être prêts. Et donc c'est ce que moi j'ai connu enfant devant la télévision en attendant, je pense que ça devait être genre Dallas ou quelque chose comme ça, et j'attendais, et donc ça n'en finissait pas le concert. Donc c'est pour ça que ça a été un peu dur dans l'enfance.
Mais elle a comme une façon de travailler son public et l'orchestre, une façon de travailler le public qui
ah oui, c'est ça, ça ménage le suspense à un point, tout le temps, on a l'impression qu'elle va arriver, mais non, elle chante pas, l'orchestre reprend, et c'est parti pour un tour. Et au final, là, ça me produit quelque chose de très très doux et amusant et langueur comme ça, quelque chose qui bon, c'est pas grave, attendons, on est dans un autre espace-temps. Quoi.
Vous qui aimez faire des récits autobiographiques et faire émerger des récits autobiographiques à des artistes comme
ouais,
ça.
Ouais.
Kalsoum, quelle question voudriez-vous lui poser? Quel récit feriez-vous surgir?
Je sais pas. Ce que je vois, ce que je sentais là en écoutant assez sûrement. Je vois son. Parce que moi, c'est une expérience télévisuelle, donc je voyais son corps où il y avait. Elle bouge très peu, hein. Elle est droite avec son
mouchoir
mouchoir dans la main comme ça. Cependant, il y a une légère vibration que moi je reproduis instantanément. Quoi, j'ai incorporé cette musique. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on l'écoute. Parce que c'est un sentiment étrange, quelque chose qu'on n'aime pas, parce que j'aimais pas. Moi, je voulais voir Dallas. Et j'avais Oum Kalsoum à la place. Et ça m'a pénétré, quoi. C'est-à-dire que la musique vous enfin, un rapport avec le corps, quoi. Je l'ai incorporé, voilà. Oui. J'ai pas d'autres mots.
l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart, c'est la version enregistrée par Claudio Abbado à la tête de l'orchestre de chambre Mahler, mais ce n'est pas forcément cette version-là que vous avez en tête. Vous, Jérôme Bell, c'est une version de l'enfance.
Oui, moi c'est un cadeau d'amis de mes parents, vers l'âge de 13-14 ans, et qui m'envoie un coffret de cassettes. Puisqu'à l'époque, on écoutait de la musique sur des cassettes. Enfin, en tant qu'adolescent, j'avais cet objet-là dans ma chambre. Et je ne sais pas pourquoi, eux, ses amis aiment l'opéra. Nous, on vit au Maroc, donc il n'y a pas d'opéra. Et j'écoute ça des heures et des heures, tout seul. Et je ne partage pas cette expérience. C'est ça qui m'étonne le plus, parce que évidemment à l'époque, donc c'est fin des années 70, c'est plutôt... ACDC, Bob Marley, qui ont pignon sur rue. Et moi, j'ai cette expérience solitaire, comme ça, mais qui est utilisée sur le même rapport que les scies musicales de la musique populaire, puisque je l'écoute et je l'écoute et je l'écoute et je l'écoute. Et donc, encore.
L'opéra en entier.
Oui, c'est ça. Je passe les trois cassettes par je ne sais quelle. Je sais pas, vraiment, là, c'est un mystère, pourquoi j'étais...
Est-ce que vous vous souvenez des représentations que vous faisiez?
Alors, justement, non. Je me rappelle que je lisais le livret, parce que je parle pas allemand, et je suivais comme ça, Papageno, tatata, tamino.
Vous l'avez vu ensuite par la...
Alors après, bien sûr, après j'ai vu, je crois que le premier...
Ça correspondait à ce que...
Non, absolument pas.
Vous faisiez,
non, absolument pas. Absolument pas. C'était beaucoup mieux ce que j'imaginais, évidemment. Bah oui, parce que le théâtre, il n'a pas beaucoup de moyens par rapport à l'imagination d'un enfant. Mais c'est vrai que je les collectionne. À chaque fois que ça passe, je les regarde. Et bon, évidemment, il y a celle de Bergman qui était parfaite, puisque c'était un film, donc j'ai pu le voir assez tôt, et qui est effectivement aussi une vision presque enfantine. Hein. Et puis ensuite, j'ai vu d'affreuses mises en scène. Et dernièrement, une qui m'a enchanté, justement, c'est le cas de le dire, celle de Romeo Castellucci à la Monet, qui a metteur en scène d'abord de théâtre et donc que j'ai beaucoup pratiqué. Et là, ça m'a vraiment littéralement réémerveillé, quoi, puisque le premier acte est dans un monochrome blanc, qu'avec des doubles et une symétrie, mais enfin vraiment tellement poussé que c'est même moi qui connais bien le théâtre, je comprenais pas ce qui se passait, comment il arrivait à le faire avec des tournettes sur le plateau. Enfin, il arrive à une chose et ensuite avec une par contre, la deuxième partie est complètement déstructurée. Mais voilà, c'est un espace. C'est ça qui est beau avec la musique. C'est on l'écoute et on est ailleurs et on crée son propre espace imaginaire. Son imaginaire est une île, comme ça, un pays ou un continent même parfois. Où on est souverain, seul avec ça, et tout le reste disparaît, quoi. Ça, c'est la puissance hallucinante de la musique.
Barmedy, tiré de la Passion selon Saint Matthieu, ici René Jacobs, aux côtés de la petite bande dirigée par Gustav Leonhardt. Jérôme Bell, si je comprends bien, c'est un rapport visuel aussi que vous avez à cette musique.
Ouais, j'ai découvert cette musique à travers le film de Pier Paolo Pasolini, L'Évangile selon Saint Matthieu. Et je, là, on avance en âge et je dois avoir vers l'âge de 16 ans et je participe au ciné-club du lycée et on voit, là, on devient des cinéphiles et on voit ce film. Et ce film me fascine, je le trouve extraordinaire, mais voilà, je le trouve extraordinaire, donc j'arrive pas à le penser. Et puis je le revois et je le re-revois et petit à petit je comprends comment ça fonctionne. Et surtout, en me détachant petit à petit par le fait de le voir plusieurs fois, je comprends qu'il y a cette musique sublime que je connaissais pas sur ces images. Mais moi, je crois que, à l'époque, je crois que c'est, je sais pas d'où elle vient, cette musique. Pasolini, il l'a mis là, c'est peut-être n'importe qui a fait cette musique. Petit à petit, je me dis, ah, mais non, c'est, en faisant des recherches, comme ça, en lisant des articles. Je m'aperçois que bon, c'est un monsieur qui s'appelle Johann Sebastian Bach, qui était inconnu jusque-là.
Et la musique finit par se détacher de l'image.
Et oui, c'est ça. Elle est complètement imbriquée. C'est pour ça que j'ai une expérience esthétique très forte. Mais cette expérience esthétique me pousse à revoir le film et petit à petit, l'expérience esthétique, elle commence à devenir plus fine. Enfin, elle est moins esthétique, elle est plus analytique. Et donc là, je dis, mais attends, mais cette musique, enfin, quand il est gonflé, parce que cette musique est sublime et je m'en étais pas aperçu à la première vision. Et quand je l'écoute toute seule, je dis, ah bah oui, elle tient le coup toute seule. Mais pendant des années, quand je l'écoute, J'ai, à l'instant, je voyais encore...
Vous voyais en grande concentration, c'était le film de Pasolini qui vous revenait en tête.
Oui, parce que moi, je vais devenir chorégraphe et avec l'expérience, je m'aperçois que mon rapport à l'extériorité, il est moins auditif que visuel. C'est pour ça que j'aime bien être dans votre émission de gens qui sont pas des spécialistes, parce que je suis absolument pas un spécialiste de musique. Je suis même catastrophique, quoi. J'ai beaucoup de mal à retenir un air ou des choses comme ça. Et je me sens très très vulnérable par rapport à la musique. J'arrive pas à la conceptualiser. Parce que je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi? Je n'arrive pas à avoir une image mentale de la musique. Je n'ai qu'une expérience sensible. Je suis ému, je suis transporté, mais je n'arrive pas à me détacher et à voir, par exemple, la structure de la musique. Incapable. Je suis dans l'instant, toujours.
Et dans l'image, donc.
Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé pour commencer à rentrer en relation avec la musique. Ça a été très souvent elle devait toujours être sous-tendue par une image. Comme, par exemple, le Sacre du Printemps de Stravinsky. S'il n'y avait pas eu Pina Bausch, je pense que je serais passé à côté. Le cinéma, le théâtre, m'ont permis d'appréhender littéralement la musique et ensuite de pouvoir l'écouter toute seule hors de... Mais c'est vraiment j'ai l'impression que mon rapport au réel, il est à travers une pulsion scopique. D'abord, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les musiques de films, les choses comme ça qui ont eu beaucoup d'impact. Et là, en l'occurrence, cette scène, je crois que c'est la naissance du Christ, et on voit Marie avec Joseph dans l'étable, et ensuite il leur dit la fuite en Égypte. Là, tout d'un coup, je les vois sur un âne. Enfin, et tout ça revient comme ça. Ah,
Là encore, Jérôme Bell, c'est un rapport cinématographique, visuel à la musique que vous avez, que nous convoquons là ce matin, avec cet extrait du Salon de musique, film de Satyajit Ray, avec la musique de Vilayat Khan.
C'est ça.
C'est ça. En 1958, est-ce que vous avez tenté de danser cette scène?
Oui, tout seul chez moi, je mets les pieds en dehors et je frappe le sol comme la danseuse, puisque là, donc, on est à la radio, mais c'est un concert, en fait. Satyajit Ray tourne un concert où il y a des musiciens et une danseuse de Kathak, qui est une danse savante du nord de l'Inde. Et elle chante aussi, on l'entend chanter. Et ce qui est très très beau dans ce film, c'est que c'est l'histoire d'un propriétaire terrien qui va à la ruine. Et évidemment, face à lui, il y a un nouveau riche comme ça, qui mais qui est pas éduqué, donc il connaît pas bien la musique. Mais il devient riche. Et alors que le noble aristocrate décide de donner... Il a plus d'argent, mais il décide de... Avec le peu d'argent qu'il a, les derniers roupies, j'imagine, il décide de donner un concert. Et Satyajitré filme... Et ça, c'est très rare, la scène pendant 8 minutes. Et on voit ce que moi, j'adore voir au cinéma, qui m'obsède, qui est dans mon travail, qui est la relation, qu'est-ce que l'art produit. Et le cinéma permet de voir non seulement les artistes qui se produisent, dans l'occurrence les musiciens et la danseuse, et le public qui réagit, qui sont que des hommes, en l'occurrence, habillés en blanc, en fumant le narguilé, allongés sur dans des tapis, comme ça.
Vous êtes allé en Inde, vous ?
Moi, je suis allé en Inde. Je suis devenu dingue avec ce film et j'ai une obsession pour la danse indienne savante, qui est une danse très très ancienne, 5000 ans.
Bon, vous finalement... avez tenté de l'apprendre.
Non, pas du tout. Je voulais faire un portrait biographique d'une danseuse extrêmement reconnue là-bas. Finalement, ça n'a pas fonctionné aussi bien que je croyais, mais je suis allé enquêter là-bas auprès d'une immense danseuse. Sur sa pratique, d'où ça venait, comment elle faisait, comment elle travaillait, qu'est-ce que ça signifiait. Et par exemple, qu'elle danse, là on entend dans les paroles, en fait elle donne les rythmes, donc c'est de l'abstraction pure, elle compte. C'est les noms des comptes. Et à l'opposé, elle doit danser l'abstraction, elle doit savoir danser l'abstraction, comme ça, la pure construction abstraite. Et il y a une autre partie qui est l'abhinaya, qui est au contraire ultra figuratif, narratif, qui raconte, et beaucoup plus théâtral, comme ça. Ce qui m'étonnait, c'était cette séparation des deux, c'est-à-dire vraiment d'accepter les deux formes abstraites et figuratives, sans le moindre problème. Ils n'avaient pas de choix à faire. Alors qu'en Occident, on est un peu... Tu choisis l'un ou l'autre, c'est un peu des antagonismes, disons. Et elle, pas du tout. Non, ça, c'était pas... Et aussi, par exemple, il n'y a pas de chorégraphe. La danseuse, ça, c'est aussi une chose merveilleuse. Elle improvise avec ses musiciens. Parce que nous, dans la danse, quand on est la danse occidentale, on hérite du ballet, c'est écrit. Et ça, c'est quelque chose d'un peu restrictif, à mon avis. Heureusement, il y a quand même la danse moderne à... un peu pousser l'improvisation, mais voilà, c'est des choses, quand je vais là-bas, je comprends un peu mieux comment est construit ce que j'ai naturalisé, c'est-à-dire mon propre savoir, mais je l'ai moins questionné. On me l'a dit, c'est comme si, c'est comme ça, tatata, et je me rends pas compte. Par exemple, ce que je crois comme naturel en Occident est finalement codifié, totalement codifié. Et ça a été une grande chose qui m'a permis de développer mon travail, c'est de défaire les codes, de les interroger. Et le public était un peu surpris quand j'ai commencé à dire « Non, mais ça, c'est... Vous croyez que c'est naturel, mais non, ça l'est pas. C'est un truc qu'on accepte, c'est la culture. » Et il me semble que l'art doit faire exploser la culture.
Thank you.
Le Larghetto du 27e concerto pour piano de Mozart en si bémol majeur. Maria Joa Pires est au piano.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Le chorégraphe Jérôme Bell est l'invité de Musique et moi ce matin. Nous parlions d'académisme occidental juste auparavant. Nous voilà servis avec Mozart. Est-ce que vous êtes sensible à la performance de la répétition d'un concerto comme ce 27e?
Normalement, non. Normalement, moi, j'habite à Paris et je sors tous les soirs. Mais je vais voir de la danse, je vais voir du théâtre, je vais voir beaucoup de musique contemporaine. Je vais beaucoup à l'opéra, mais très peu les concerts. Et je me suis dit que ça serait quand je serais un vieux monsieur, je prendrai le temps et ça sera. Il faut que je garde ça pour ce temps-là. Ça sera extraordinaire.
Comme une sorte d'intuition. Contemplatif.
Voilà, exactement. Quand je serai un homme sage et les désirs seront moins et je vais me concentrer. Là, je veux changer le monde, je veux faire des choses. Et je m'étais dit ça. Et puis un ami m'a invité au dernier moment en me disant « J'ai une place ce soir à Pleyel pour Maria Joao Pires. » Et j'étais libre. Je dis « Bon, bah tiens, oui, bon, allez. » Donc j'y vais un peu à reculons, comme ça. Bon, ça va être un peu... le plaisir sera celui de la reconnaissance. C'est pas très intéressant. J'avais compris que moi, la joie, ou c'était toujours la question de la découverte, de pas savoir. Et la musique classique, toutes les musiques d'ailleurs, et plein d'autres choses. Un des plaisirs esthétiques, c'est celui de ce qu'on appelle de la reconnaissance, de retrouver les mêmes sensations, et voilà, de l'avoir un peu en tête comme ça. Or, moi, je sais que j'ai quand même, quitte souvent me casser la gueule, voilà, passer des mauvaises soirées, je préfère quand même 100 000 fois aller entendre, voir quelque chose que je ne connais pas.
C'est parce que vous me disiez sur la flûte enchantée que vous aviez écouté en boucle, par exemple.
Oui, mais ça, c'était quand j'étais jeune. Quand j'étais, je comprenais rien à l'art. Petit à petit, j'ai compris que j'ai affiné mon statut de spectateur. Et donc, je vais là-bas. Bon, allez, pourquoi pas. Et au moment, là, du Larghetto, comme ça, il se passe un truc, une émotion me prend que j'attendais pas du tout. Quelque chose de même pas vraiment, enfin un peu ineffable, hein, une chose qui m'a bouleversé sans savoir ce que c'était. Un truc qui reste encore mystérieux. Bon, je dois dire que Maria Joao, elle a quelque chose de la voir, elle a un truc génial, elle a l'air de rien, elle est coiffée avec un pétard, elle est habillée, j'ai l'impression qu'elle a pris le premier truc qu'elle a trouvé. Donc il y a ce côté aussi qu'elle me paraissait fort sympathique, vraiment pas dans l'apparence. Et effectivement, il s'est passé un événement de sa... j'allais dire de sa psyché, parce que je crois que c'est vraiment là que ça se passe, qu'elle a éprouvé elle-même et que donc moi j'ai éprouvé, que j'ai ressenti dans son interprétation, quoi, dans l'état où elle s'est mise elle-même avec cette partition pourtant, bon, une archi-connue. Mmh. Et là je me dis, mais mince, on peut réinventer une chose aussi balisée. Où on a en plus, surtout avec les enregistrements aujourd'hui, on peut écouter toutes les versions sur Internet, tout ça, on compare tout. Et quand même d'arriver à trouver une singularité ou justement du présent. Là, j'étais beaucoup moins ému en l'écoutant. C'était parce que j'étais assis dans la salle et qu'elle était à 20 mètres de moi.
Parce que ça se faisait dans l'instant.
Ah oui. Et que elle aussi, elle était dans l'instant. Enfin, j'ose croire ça. J'ose croire qu'elle était. Et je pense que c'est pour ça que ces interprètes font ça. Les interprètes, les grands interprètes, ils le font parce qu'ils ont le courage d'être dans l'instant. Ou sinon, il se passe rien. Si tout est programmé, alors dans ce cas-là, ça peut être un disque. Mais dans tout, dans le théâtre, le chant, c'est des gens qui vont essayer de se connecter avec que ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Et donc ça sera plus puissant que s'ils ont décidé, par exemple, ah, je vais le faire comme ça, il y aura moins de force, il y aura moins de profondeur. Alors que si elle est ouverte comme ça, elle dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Là, on atteint l'instant. Et nous, auditeurs et auditrices, on se connecte avec ça. Je pense que c'est ça qui m'a mis dans cet état sidérant, quoi.
C'est un extrait du Wozzeck de Berg, ici chanté par Dunja Vejsovic. Et nous sommes à présent donc à l'opéra avec vous. Vous m'avez dit que vous alliez beaucoup plus volontiers à l'opéra, Jehan Bell, qu'au concert, justement à cause du support visuel.
Théâtral qui m'est nécessaire, oui. Ouais. Pour écouter, pour... voilà, puis c'est ma pratique, donc d'une pierre deux coups, là. Je peux écouter de la musique tout en voyant des œuvres visuelles. Et donc, j'ai vu cet opéra, à l'opéra Bastille, mis en scène par Wozzeck, donc mis en scène par Christophe Marthaler, dans une scénographie... génial, avec des chanteurs géniaux, et je ne connaissais pas l'œuvre. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'aller reconnaître des choses, là, au contraire, je savais pas ce que j'allais voir. Enfin, je savais que si, Wozzeck, je connaissais l'histoire, mais j'avais pas écouté la pièce ni rien, et j'ai eu l'impression que c'était fait pour moi. C'était absolument, je ressentais tout. Il y avait l'équilibre entre la musique, la direction théâtrale, la scénographie et le jeu des acteurs, comme une évidence. Tout me semblait évident. Alors que c'est une musique, puisque là maintenant dans la modernité moderne, qui a balayé la musique classique, comme ça, pour se réinventer. Et j'aurais pu être surpris ou quoi ? Pas du tout. C'était au contraire absolument... compréhensible. J'avais l'impression d'être un enfant à qui on racontait une histoire, quoi. Et voilà, j'ai pas vu les deux heures passer. J'étais avec les personnages, sans comme un film commercial qui utilise tous les procédés que je déteste, mais qui marche. Et là, c'était l'évidence. Et je ressentais tout. Et ça, c'est quand l'opéra est comme ça, quand on a tous ces éléments, parce que c'est plus compliqué l'opéra que le théâtre, parce qu'il y a le troisième élément qui est la musique. Et donc souvent ça rate pour moi. Pour moi c'est catastrophique. Je vais souvent à l'opéra et je mets ma main devant mes yeux par exemple. Tellement c'est affreux ce que je vois sur la scène, mais donc je m'intéresse à la musique, j'ai les sur-titres. Ça m'arrive beaucoup de faire ça, de pas regarder tellement je trouve ça... atroce.
De regarder le plafond.
Des bêtises, une esthétique ringarde, enfin.
Alors pourquoi y allez-vous?
Ah ben, j'écoute la musique. Hein, j'écoute la musique. Mais
vous prenez
pas
le risque à chaque fois.
Ah oui. Quand je peux, oui. Ah. Et là, c'était au contraire, tout se combinait, je sais pas comment dire, harmonieusement. Et là, par contre, c'est 10 fois plus puissant que le théâtre. Quand en plus, il y a Berg. Ce qu'il a pu exprimer et qui me semblait...
Vous seriez tenté, vous, par la mise en scène d'opéra ?
Alors, j'ai eu une proposition quand j'ai travaillé... J'ai été invité par le Ballet de l'Opéra de Paris en 2005 et j'avais fait cette pièce à l'Opéra de Paris pour une danseuse, Véronique Doineau.
Véronique Doineau.
Voilà. Et ensuite, le directeur, à ce moment-là, Gérard Mortier, m'avait convié à déjeuner et m'avait proposé... Enfin, voulait savoir si j'étais intéressé de faire une mise en scène, et je lui dis, ah, mais oui, volontiers, mais moi, je veux une œuvre contemporaine. Je veux que la compositrice ou le compositeur soit là, vivant et qui me...
Pourquoi ?
Bah, parce que je voulais apprendre. Je voulais savoir pourquoi. Je vous ai dit que j'avais des problèmes avec la musique. Puis je voulais... Moi, je défends la modernité. Je défends le contemporain. Donc, et là, ils avaient... Oh, mais vous voulez tout ça ? Oh, non. Et alors il m'a proposé des choses. Je dis non, moi, je veux quelqu'un faire de l'art d'aujourd'hui. Je veux pas mettre en scène des choses... Et surtout, je crois que j'en suis incapable. Et donc, ça s'est pas fait.
Vous avez d'ailleurs souhaité qu'on écoute quelques compositeurs contemporains. On va écouter deux œuvres.
Ah oui.
Une œuvre signée Helmut Lachenmann et une autre, Eliane Radig.
Thank you.
C'était à la suite Ein Kinderspiel par Helmut Lachenmann lui-même au piano et à la composition donc. Et ici Cryptus d'Eliane Radig avec Giuseppe Lelassi au synthétiseur. Eliane Radig, pionnière de la musique sur synthétiseur. C'est rare qu'on me demande effectivement dans Musique Moi de la musique contemporaine. Quand écoutez-vous ces musiques-là, Jérôme Bell? Est-ce que ce sont des musiques que vous utilisez dans vos performances?
Non,
que
je suis trop mauvais. Je suis un musicien, donc non, je suis un néophyte, je vais au concert. C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais à Pleyel, Mozart en reculant. Par contre, je me précipite dès qu'il y a, de la musique contemporaine qui est jouée à Paris. Parce qu'à chaque fois, j'en ressors comme si mon être était agrandi, quoi. J'ai l'impression toujours de faire une expérience où la conscience de moi-même s'approfondit. Par exemple, la philharmonie Inori de Stockhausen, j'ai eu cette expérience de descendre en moi dans un infini que j'avais jamais éprouvé, quoi. Et la musique contemporaine, donc celle que je connais pas, m'amène toujours à des endroits inouïs, c'est le cas de le dire.
Mais vous découvrez à chaque fois, là, plusieurs fois, à plusieurs reprises, des expériences de concert. Donc vous êtes sur votre siège et vous êtes seulement dans une écoute, vous absorbez comme ça le son. Est-ce que vous les réécoutez ensuite chez vous pour les ressentir corporellement?
Non, ça c'est un peu la limite. C'est vraiment quand même au concert où je suis bloqué là, le téléphone est débranché. Je pense que c'est des expériences tellement subtiles qu'il faut être là, bien assis, isolé du reste du monde et être métamorphosé par une chose étrange qui est cette écriture du temps. Et il faut être très très disponible pour si... Moi par exemple, mes amis musiciens se moquent de moi parce que j'adore tout. Ils me disent, mais tu sais, ça c'est dans l'histoire de la musique, ils sont opposés. Je suis là, ah bon? Et donc j'ai une sorte de virginité comme ça. Je suis littéralement ouvert à toutes ces expériences de Courtag, Luigi Nono, toutes ces choses-là. Mais autant je peux être très critique sur le théâtre ou la danse. Là, je suis absolument pas critique.
Oui, et j'ai pas l'impression que vous ayez un rapport utilitariste à la musique.
Ah non, pas du tout. Non, je c'est pas pour moi. C'est pas pour mon travail. C'est pour moi. Et c'est ça, d'ailleurs, qui me permet cette disponibilité. C'est que je vais pas me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser, et puis en faire mes trucs et mes spectacles. Au contraire, là, c'est le temps. C'est le truc en plus, le truc libre, le truc où rien ne m'empêche, ou ne va être rendu utilisable, ou... Non, c'est de la liberté.
Thank you. Andreas Scholl interprète Ombra mai fu, tiré de Circé de Händel. Il est accompagné de René Jacobs à la tête de l'Académie für Alte Musik de Berlin. Là, si je peux me permettre de vous contredire, Jérôme Bell, vous avez quand même un rapport utilitariste à la musique, puisque ce sont des musiques que vous recherchez pour parler de nature.
Ah oui, non, là, parce que, oui, effectivement. Contradiction. Là, c'est effectivement pour un projet sur ce qu'on appelle le théâtre durable, et je réfléchis à, parce que un engagement dans l'écologie actuellement. Et justement, je m'étais dit, tiens, est-ce que tu devrais regarder un peu les musiques qui évoquent la nature, quoi, hein, pour essayer de représenter ce qu'on appelle le vivant et pas seulement l'homme comme maître du monde. Et donc, je cherche comme ça sur Internet, demande à mes amis toutes les musiques qui évoquent la nature, que ce soit l'orage, ou l'été, l'hiver, les quatre saisons.
Et là, c'est un très bel air qui parle de l'ombre d'un arbre.
Voilà, et celui-là, je l'adore, parce que d'abord, il est sublime, et ensuite, il était sublime,
mais comme toujours.
Très simple, et surtout très, très bizarre dans l'opéra. On comprend absolument pas pourquoi il y a cette partie-là, mais ça raconte toute autre chose. Et en fait, c'est le roi qui remercie un arbre pour l'ombre qu'il lui donne. Évidemment, quand on connaît le sens, c'est presque aussi beau que la mélodie incroyable qu'on entend.
Merci beaucoup, Jérôme Bell, d'être venu dans Musique et moi ce matin, associer la performance d'une danseuse de Katak et le piano de Maria-Joëlle Pirèche, d'avoir associé différents airs de Händel, de Berg. Merci à toute l'équipe qui a permis ce Musique et moi. Pierre Monteil à la technique, Catherine Prin-Legal à la réalisation, Marie Ferdinand pour la préparation et pour la mise en ligne. À la semaine prochaine, dimanche, 11h, Musique et moi.
À réécouter sur francemusique.fr.